Dieu et trois fois saint, nous voulons te remettre ces instants que nous allons passer ensemble, qu'ils soient bénis de toi. Amen.
Je vous invite à vous lever et nous voulons démarrer ce culte avec un chant qui va vous rajeunir d'un coup. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Ça va ? Pour ceux qui ne le connaissaient pas, maintenant vous le savez, parce qu'il faut quand même prendre les anciennes, les nouvelles générations, hein. Peut-être que les nouvelles générations ne le connaissent pas. On va le reprendre une fois. Et joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Jésus vit à jamais en moi. C'est pourquoi mon cœur est toujours plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Jésus vit à jamais en moi. C'est pourquoi mon cœur est toujours plein de joie. Je vous invite à vous rasseoir.
Bienvenue toute spéciale aussi à Zacharie, né il n'y a pas longtemps. Ses parents ont souhaité reproduire l'exemple de Jésus-Christ présenté au Temple, présentation tant devant Dieu que devant la communauté spirituelle qui allait accompagner son enseignement, son développement au cours de sa vie. C'est un moment de cette signification que nous voulons vivre maintenant, moment où Zacharie sera présenté à notre Père Céleste, moment où Zacharie sera aussi présenté à notre Église, sa communauté, qui, elle, s'engage à lui offrir le cadre de développement pour sa vie spirituelle, avec les potes, le caté, le CDT, et peut-être jusqu'au fil d'argent. Ces groupes permettront à Zacharie d'évoluer et de grandir dans sa relation au Père et aux autres. Ce moment que nous voulons vivre se situe donc dans notre histoire, au croisement de la relation verticale avec Dieu et de la relation horizontale au sein de la communauté, forme d'engagement aussi pour l'Église, de fournir à Zacharie l'espace spirituel dont il aura besoin pour établir et faire grandir sa relation avec Dieu. Dans un premier temps, les parents de Zacharie, Véronique et Thomas, vont nous partager une super belle histoire. Ensuite, des représentants des divers groupes de l'Église monteront avec eux, les pasteurs, la famille, pour la prière. Et ensuite, de quoi nous aurons un chant de bénédiction avant de passer à la louange.
Bonjour, vous m'entendez? Ça va?
Je fais un test, vous m'entendez aussi?
Alors le micro il est à hauteur de Véronique, ah voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, ah oui effectivement. Alors pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que c'est ce projet? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Zacharie il aura du mal à venir vous dire bonjour et se présenter personnellement à chacun d'entre vous, alors on le fait une fois. Donc bonjour de la part de Zacharie. Et puis, aussi on voudrait vous le remettre en tant que communauté avec qui il va certainement grandir, en tout cas le temps qu'on est là. Donc ça c'est la deuxième chose. Et voilà, et la troisième chose, c'est qu'on veut le présenter à Dieu, même s'il le connaît depuis un bout de temps maintenant. Et puis lui dire merci pour Zacharie. Et puis ensuite, évidemment, prier pour lui ensemble. Et on souhaite de tout cœur qu'il puisse un jour le rencontrer. Voilà.
Donc, on va raconter cette histoire parce que pour Oscar, c'est Roger qui avait raconté l'histoire de Punchinello. Et puis, il y a une autre histoire, puis on l'avait trouvée jolie, alors on veut aussi lui raconter cette histoire.
Puis, accessoirement, vous pouvez en profiter aussi. On s'est dit que ça pouvait faire d'une pierre deux coups. Punchinello vivait à Vemishville.
Comme les autres Vémiches, il était en bois.
Et comme les autres Vémiches, il avait été sculpté par Élie, le créateur de Vémiches.
Et comme les autres Vémiches, il lui arrivait de faire des bêtises.
Comme la fois où il se mit à collectionner des boîtes et des balles.
La situation commença à devenir absurde le jour où Aki acheta une boîte neuve.
Mais Aki aimait beaucoup sa nouvelle boîte.
Il pensait que c'était la plus belle boîte du village.
Elle était de couleur vive et il en était fier.
Très fier.
Il se pavanait dans les rues en fanfaronnant. Avez-vous vu ma nouvelle boîte?
Qui veut toucher ma nouvelle boîte?
Et Aki demanda à Punchinello.
Tu aimerais bien avoir une boîte neuve, toi, hein?
Punchinello trouva la boîte magnifique et il se mit à en désirer une rien que pour lui. Aki pensait que le simple fait d'avoir une boîte neuve le rendait meilleur que les autres Vémiches. Mais alors arriva, mieux, un autre Vémiche que t'es pas du tout d'accord.
Ma boîte vaut bien mieux celle que d'Aki.
Ouais, la boîte de mieux était pas neuve. Mais elle était un petit peu plus grande et de couleur un petit peu plus vive que celle d'Aki.
Aki ne dit plus rien et jeta un regard furieux à mieux. Puis il eut une idée. Il entra dans un magasin et acheta une balle.
Le visage de Mieux s'assombrit à la vue de la balle d'Aki. Mieux pouvait faire mieux. Il acheta deux balles, le sourire aux lèvres, avec ses deux balles et sa boîte dans les bras. Il se dirigea vers Aki d'un pas triomphant et lança d'un air satisfait.
Maintenant, j'en ai plus que toi.
Aussitôt dit, Aki se retrouva dans le magasin pour acheter une nouvelle boîte, puis une autre balle. Alors Mieux acheta une boîte et Aki acheta une balle. Boîte, balle, balle, boîte, balle, boîte.
Aki, mieux, Aki, mieux, Aki.
Enfin, cela, ça n'en finissait plus.
Quelqu'un aurait bien pu faire cesser tout ce désordre.
En fait, c'est ce que le maire essaya de faire. Vous vous comportez comme des idiots. Hein? Peu importe qui a le plus de boîtes ou de balles.
Vous êtes jaloux, voilà tout.
Répliquèrent Aki et mieux.
Vous êtes jaloux parce que vous avez même pas de jouets.
Moi ? Jaloux de vous? Pas du tout. Et aussitôt dit, le maire se rua dans le magasin pour acheter des boîtes et des balles. D'autres Vémiches se mirent à lui emboîter le pas. Le boucher.
Le boulanger.
Oui, le menuisier.
Le docteur, en haut de la rue.
Et le dentiste du carrefour. Très vite, chaque Vémiche voulut être le seul à posséder le plus de boîtes et de balles.
Certaines boîtes étaient grandes, d'autres de couleur vive. Tout le monde en portait. Et tout le monde pensait la même chose.
Les bons Vémiches en ont beaucoup, les pas si bons Vémiches en ont peu.
Bien sûr, Punchinello ne voulait pas qu'on le traite de pas si bon Vémiche. Comme acquis, il voulait lui aussi se promener en ville, les bras pleins de boîtes et de balles. Il décida donc de s'en procurer autant que possible. Il fouilla dans son placard et ne trouva qu'une seule toute petite boîte.
Je sais ce que je vais faire. Je vais vendre mes livres pour avoir plus d'argent et acheter encore plus de boîtes et de balles.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais il en voulait davantage.
Oui, je vais travailler la nuit pour gagner encore plus d'argent.
Et comme il travaillait la nuit, il n'avait plus besoin de son lit.
Oh, je vais vendre mon lit.
Punchinello eut bientôt autant de boîtes et de balles que ses bras pouvaient en contenir. Mais d'autres vémiches en avaient plus. Certains en avaient même tellement qu'ils avaient de la peine à marcher.
Toutes ces boîtes et ces balles, ça me dépasse,
disait-il, feignant de se plaindre, alors qu'en réalité, il se vantait.
Et Punchinello voulait ressembler à ces vémiches-là. Il vendit donc plus de choses et travailla davantage. Mais malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à attirer l'attention des bons vémiches. Finalement, il eut une idée.
« Je vais vendre ma maison, » se dit-il.
Il vendit donc sa maison. Il portait tellement de boîtes et de balles qu'il ne voyait plus où il allait. Il tombait de fatigue, il avait mal aux bras, il se cognait dans les murs. Mais cela n'avait pas d'importance pour Punchinello. Quand il croisait des vémiches, ceux-ci se retournaient et disaient
« Waouh, ça doit être un bon vémiche !»
Punchinello les entendait. Bon, il ne pouvait pas les voir, mais il les entendait. Et il se sentait bien.
« Je suis un bon vémiche !»
Mais à ce moment-là, quelqu'un changea les règles. C'était la femme du maire. Elle était très fière de ses boîtes et de ses balles. Elle voulait être la meilleure vémiche. Un jour, elle eut une idée.
« Non seulement c'est moi qui en aurai le plus, mais c'est moi qui me tiendrai le plus haut !»
Elle se percha donc sur l'une de ses boîtes et cria
« Regardez-moi tous !»
Et immédiatement, les gens à boîtes et à balles essayèrent de faire mieux qu'elle. L'un d'eux grimpa sur une fontaine, un autre sur un balcon, un autre encore sur un toit.
Cependant, ce fut le maire qui repéra la montagne.
« Je vais au sommet de la montagne !» La course était lancée. Chargés de boîtes et de balles, les vémiches commencèrent à gravir la montagne en courant. Ce fut une course folle. Comme personne ne voyait où il allait, ils se rentraient dedans.
Comme ils étaient épuisés, ils s'en mêlaient les pieds et tombaient.
Mais ils continuaient à monter.
Punchinello fermait la marche. L'escalade était difficile, mais il était déterminé. Mais comme il ne pouvait pas voir, il ne savait pas qu'il se trouvait hors du sentier. Soudain, il se retrouva seul.
« Je dois être devant tout le monde !»
se dit-il. Alors il continua à grimper, à grimper, à grimper.
Oh, « Je dois être très près du sommet. C'est moi qui serai le plus haut avec le plus de jouets !»
Au même moment, Punchinello heurta quelque chose. Et il perdit l'équilibre. Il ne savait pas qu'il avait gravi le sentier qui menait à la maison d'Élie. Il s'étala de tout son long dans l'atelier d'Élie. Lorsque Punchinello comprit où il se trouvait, il se sentit gêné. Pendant un long moment, il resta le visage contre terre, entouré de ses boîtes et de ses balles.
Punchinello, la voix d'Eddie était à la fois calme, grave et douce.
Punchinello ne bougeait toujours pas. Il sentait son visage en bois devenir tout rouge.
Tu as dû porter une lourde charge.
Ce sont mes boîtes et mes balles, dit-il.
Est-ce que tu joues avec ces boîtes et ces balles ? Demanda Élie.
Punchinello fit non de la tête.
Est-ce que ces boîtes et ces balles te plaisent ?
Elles me plaisent parce que depuis que je les ai, je me sens différent.
Comment ça, différent?
Je me sens important.
Donc, tu t'es mis à croire qu'accumuler toutes ces choses te rendra meilleur et plus heureux.
Oui, je crois que c'est ça.
Viens ici, Punchinello. J'aimerais te montrer quelque chose.
Punchinello leva sa petite tête en bois et regarda Ellie pour la première fois. Il fit soulager que son créateur des Vémiches n'était pas en colère. Oh non, Punchinello suivit Ellie jusqu'à la fenêtre.
Regarde-les, dit Ellie.
Punchinello vit en dehors la colonne de Vémiches qui continuait de gravir la montagne. Ils allaient jusqu'à se donner des coups pour passer devant.
Ont-ils l'air heureux ? Demanda Ellie.
Punchinello secoua simplement la tête.
Ont-ils l'air importants ?
Non, pas du tout.
Penses-tu que j'ai créé les Vémiches pour qu'ils se comportent ainsi ?
Non.
Punchinello, sais-tu ce que tes boîtes et tes balles t'ont coûté ?
Mes livres et mon lit, mon argent et ma maison.
Mon petit ami, elles t'ont coûté bien plus que ça. Elles t'ont coûté ton bonheur. Elles ne t'ont pas rendu heureux, n'est-ce pas ?
Non.
Elles t'ont coûté tes amis. Et surtout, elles t'ont coûté la confiance. Tu n'as pas placé ta confiance en moi pour trouver le bonheur. Tu as placé ta confiance dans ces boîtes et ces balles. Punchinello regarda le tas de jouets. Et tout à coup, ils semblaient avoir perdu leur valeur.
J'ai tout gâché.
Ne t'en fais pas. Tu es toujours aussi précieux. Punchinello baissa vivement la tête et sourit. Tu n'es pas précieux à cause de ce que tu as. Tu es précieux à cause de ce que tu es. Tu m'appartiens. Je t'aime. Ne l'oublie pas, mon petit Punchinello.
J'ai écrit parce que je suis trop émue. Donc un passage du psaume 8. Dieu, tu es magnifique. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui ? Prions. Seigneur, tu es grand, tu es magnifique. À toi la gloire. Toi le grand Dieu, créateur de l'univers, tu as créé Zacharie, tu l'as confié à ses parents. Quelle joie pour sa famille et pour nous, ses papy-mamies. Mais quelle angoisse ça pourrait être de penser à la vie qu'il pourrait avoir. Mais nous te connaissons, toi. Nous te connaissons parce que Jésus, ton Fils, notre Christ, t'a fait connaître à nous. Il a retissé les liens avec toi. Et parce que nous sommes tes enfants, parce que tu es notre Père, parce que tu es Père, nous pouvons te confier Zacharie. Garde-le des erreurs. Et quand il en fera, montre-toi à lui qu'il se redécouvre pardonné et relevé. Garde-le du mal, garde-le des méchants. et quand il la rencontrera. Protège-le, qu'il trouve et choisisse en toi son bouclier, son rocher. Et nous, les grands-parents, depuis longtemps, nous avons pu compter sur ta fidélité. Et nous savons par la foi que tu seras fidèle pour Zacharie. C'est dans la confiance que nous te remettons à lui, que nous le remettons à toi, lui et Oscar, pour qu'ils grandissent ensemble dans ton amour. Nous te remettons aussi leurs parents, qu'ils trouvent en toi chaque jour un renouveau pour leur force, pour leur patience, leur sagesse, dans les hauts et les bas de l'existence, repentant et pardonné, déjà dans ta maison, mais pas complètement arrivé. Et merci parce que tu exauces d'avance les prières que nous faisons monter vers toi. Amen.
Seigneur, merci parce que tu accueilles, tu nous accueilles, tu accueilles Zacharie, non pas par ce qu'il fera, parce que tu sais par ce qu'il fera, mais sa valeur est simplement parce que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as donné la vie et c'est toi qui vas conduire sa vie. Et Seigneur, nous te demandons que les valeurs de ton royaume puissent peu à peu naître en lui, grandir en lui, et s'il s'en éloigne un jour, revenir en lui par ta grâce. C'est ce que nous demandons, c'est cette bénédiction sur lui et que tu sois pour lui toujours sa première valeur. Merci pour les parents, merci pour les enfants, merci aussi pour tous les enfants qui sont là, pour tous les parents qui sont là, parce que pour tous, tu es celui qui nous accueille et nous donne vraiment ta valeur. Dans le nom de Jésus. Amen.
Véronique et Thomas, nous prions également pour vous. Les parents parfaits, ça n'existe pas. Et donc, on a besoin de la grâce, que la grâce de Dieu, à laquelle le Seigneur est engagé sur 1000 générations de ceux qu'il aime, vous bénisse, vous protège, vous accompagne. Et que le modèle de votre comportement soit parlant pour chacun et chacune, chacun de vos enfants. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.
Seigneur, nous voulons confier à ta grâce ce petit bout d'homme, Zacharie, en te remerciant de l'avoir fait naître. Il est précieux pour toi, Seigneur. Et parce qu'il est précieux pour toi, nous le recommandons à ta grâce, en te priant de développer sur lui ta bonté, tes tendresses, et de faire naître sur ce petit bonhomme une faim et une vraie soif de toi. Qu'il devienne un de tes enfants, un de tes disciples, un de tes serviteurs. Merci de veiller sur ta vie comme tu de veiller sur sa vie, comme tu as veillé sur celle d'Oscar jusqu'à présent. Et nous pouvons donc, Seigneur, nous adosser à tes promesses, à ta fidélité, pour les recommander ainsi que leurs parents à ta grâce. En Jésus. Amen. Amen.
La sphère de la bénédiction d'un enfant qui naît dans un foyer où il y a la foi dans le Seigneur est importante. Il y a une sphère de bénédiction, il y en a aussi une dans nos rapports avec les enfants que le Seigneur a confiés à la communauté. C'est la raison pour laquelle sont représentés ici des secteurs d'activité depuis l'enfance, l'adolescence et jusqu'à un âge mûr. La bénédiction de Dieu.
Je vous propose de vous lever. Nous allons chanter un chant de bénédiction pour Zacharie, pour cette famille, et qu'on peut étendre à la communauté. L'éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il te guidera dans son amour, et il chantera pour toi des chants de joie, des chants de joie. L'éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il te guidera dans son amour, et il chantera pour toi des chants de joie, des chants de joie, des chants de joie, des chants de On va laisser la famille gentiment aller s'installer. Et dans le prolongement de ce que mamie a lu, ça m'a touchée, parce que j'avais choisi le 571, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. C'est justement tiré du psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu le considères. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes un héritage, tout ce que tu as créé. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Ta voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi, qu'on se pose mes
jour où mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. La main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je au éternel pour que tu penses à moi? Qu'on se pose mes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillé. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi.
Seigneur, je veux te louer parce que c'est toi le Créateur, parce que nous pouvons élever notre regard vers toi, le Créateur de toutes choses et celui qui veut nous accompagner tout proche dans notre vie de tous les jours. Merci Seigneur, parce que tu veux faire ta demeure dans nos cœurs, toi le Créateur de l'univers. Et nous voulons te glorifier, te louer, t'adorer ce matin. Amen. Et je vous propose d'écouter une des lectures qui servira à la prédication.
Je vais lire dans Psaume 139, les versets 13 à 16. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique et je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans les profondeurs de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formée, tu me voyais déjà. Déjà ? Tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé.
Je vous propose de rester assis pour le chant qui suit.
Mon seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom.
Deuxième texte qui sera aussi en vue de la prédication de Philippe. C'est dans 1 Samuel 4, les versets 19 à 22. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas, elle n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Voilà, je laisse la parole à Philippe après ce texte.
Merci pour les deux lectures du psaume 139 au verset 13 à 16 et de 1 Samuel 4, 19 à 22. Je crois que la plupart des enfants ont rejoint leur classe déjà, leur groupe de potes du dimanche, mais si jamais, c'est encore à vous de jouer les enfants. Psaume 139. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans une terre profonde. Je n'étais qu'une ébauche et tes yeux m'ont vu. Pas d'hésitation. Pas de discussion. La parole de Dieu nous le dit clairement. Du premier amas de cellules, au premier cri, nous sommes sous le regard de Dieu. Tissés dans cette terre profonde qu'est le ventre maternel, nous sommes sous le regard de Dieu. Quelle noblesse dans la vie humaine, quelle grandeur, quelle beauté dès que la vie apparaît. Et plus loin encore, dans ce psaume, on le sent bien, les confins de la vie et les confins de la mort sont tout proches. Sur ton livre sont écrits tous les jours qui me sont destinés, avant qu'aucun d'eux n'apparaisse. Quelle dignité, du premier cri au dernier souffle, de bout en bout, la vie humaine placé sous le regard de Dieu. Le taux de mortalité en couche, aujourd'hui sous d'autres cieux que les nôtres, reste pourtant parfois important. Comme nous le rappelle ce récit poignant de 1 Samuel 4, où la femme de Phinéas, cet homme qui vient de mourir dans une bataille, meurt à son tour en donnant la vie, et qu'elle se retrouve, cette femme, incapable d'autre chose que d'une parole de détresse, une presque parole de révolte. Et elle baptise son fils, Ichabod. Il n'y a plus de gloire, c'est fini, parce que tout est fini à ses yeux. Tout est fini à ses yeux. Cette maman-là qui donne un nom dramatique à son fils nous redit aussi, me semble-t-il, qu'il n'est pas toujours évident pour des parents d'accueillir positivement un enfant, même quand les circonstances ne sont pas aussi sombres que pour la femme de Phinéas. Il reste qu'il n'est pas toujours évident d'accueillir un enfant. Il y a des grossesses difficiles. Il y a des contextes compliqués. Des mères célibataires. Des familles éclatées. Des conditions de santé parfois insupportables. Et au-delà de cela, combien de mamans, combien de papas auront conditionné le départ dans la vie de leur enfant en posant sur lui, en posant sur elle un regard trop sévère, trop rude, trop plein d'attentes. Quand on donne un prénom à son enfant, on espère, on souhaite, on forme des projets pour cet enfant. Difficile alors de ne pas l'embarquer, lui ou elle, dans toute une histoire qui pourtant n'est pas encore la sienne, mais qu'il ou elle devra faire sienne. L'enfant à venir est fondamentalement au pouvoir de ses parents, comme pour bien des années qui suivront. Je trouve qu'il vaut la peine parfois de s'arrêter quelques instants sur cette terre profonde où le fœtus est tissé, sur ce lien étonnant entre le corps de la maman qui se distend pour accueillir l'enfant et le corps de l'enfant qui grandit. La porosité entre le fœtus et la mère va bien au-delà de ce que nous imaginons, comme la médecine et la biologie le découvrent chaque jour davantage. Les cellules du sang du fœtus se promènent dans le sang de la maman, ce qui a récemment permis de mettre au point un test de dépistage d'anomalies et de diminuer par là le nombre d'amniosynthèses, un examen toujours risqué. Il y a une intense circulation entre le corps du fœtus et celui de la maman. Il y a un échange. Les voilà embarqués sur une même galère. Ça tisse des liens, forcément, pour la vie. À vrai dire, cela reste une aventure incroyable de voir quelqu'un d'autre arriver chez soi. Ça reste une aventure indicible de voir quelqu'un d'autre débarquer dans son corps, dans sa vie. Un truc un peu fou dont on repense plus tard avec étonnement. Est-ce bien moi qui ai donné naissance à cette belle jeune femme? Est-ce bien moi qui ai donné naissance à ce grand gaillard bien bâti? Frères et sœurs, si nous sommes capables d'accueillir en notre corps quelqu'un d'autre, à combien plus forte raison pouvons-nous faire place au plus intime de nous-mêmes, à la présence de Dieu, et l'accueillir. Quelqu'un d'autre qui vraiment débarque en soi, cela tient de l'invasion, il n'y a pas à dire. Et même l'enfant absolument voulu, même l'enfant longtemps attendu, même l'enfant qui arrive à point nommé, vient bousculer, déplacer, reformer, envahir le corps même de celle qui l'accueille. Tout devient difficile pour le corps distendu de la maman au fur et à mesure des mois qui avancent. La digestion notamment et tout ce qui s'ensuit, on dirait sur la faim qu'il n'y a vraiment plus de place pour tout dans ses entrailles. Et bientôt, au fil des mois, il devient même difficile de courir pour attraper un bus. J'ai même entendu qu'on se sent un peu plus vieille avant même de l'être. Il faut que ça se termine. Advient alors la délivrance. La délivrance, selon ce mot étonnant, donné autrefois à l'accouchement, la délivrance. Un mot que nous retrouvons dans un très beau texte de l'Épître aux Romains. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Voilà donc que l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une longue délivrance. La vie chrétienne a un long processus d'accouchement qui concerne à la fois la création et nous les humains. Il y a donc des choses qui demandent de la patience, de la longueur de temps, qui implique des souffrances mûries par l'esprit qui ne nous dispense pas de gémir, mais qui nous conduisent à la délivrance. Comment ont-elles fait, les femmes de tous les temps, pour avoir de temps en temps du répit entre les grossesses qui toujours arrivaient? On dit encore « tomber enceinte », comme on disait « tomber malade ». C'était bien cela autrefois. C'est bien cela encore parfois dans certaines contrées. J'ai redécouvert en réfléchissant au thème de ce matin l'histoire de Mélanie la jeune, ou Sainte Mélanie, une jeune chrétienne du IVe siècle dont il nous est parvenu un récit de vie certainement un peu enjolivé, mais intéressant quand même. Mariée à Rome à 14 ans, comme normal à l'époque, Mélanie risque déjà sa vie au premier accouchement. Et elle passe à deux doigts de la mort au second accouchement. Elle réussit alors à convaincre son mari de se vouer tous deux à l'abstinence dans une vie consacrée à Dieu. Le récit ne dit pas ce qu'en pense vraiment le mari en question, dont je salue la mémoire, ni si cet homme a complètement respecté cette abstinence. Mais Mélanie, quant à elle, s'en trouvait fort bien. Elle va continuer à vivre d'abord, et puis elle va se vouer à l'étude des Saintes Écritures. Elle traduit plusieurs fois par an l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis, elle écrit des livres. Ces livres, Mélanie va les appeler « Mes petits corps ».« Mes petits corps ». Comme si c'était eux les bébés qu'elle faisait désormais. Mélanie, la jeune chrétienne, se débrouille pour échapper à la délivrance si risquée de l'accouchement. Et elle s'investit dans la transmission. C'est parce que nous sommes appelés à donner la vie plus loin. Et quand ce n'est pas possible, eh bien, il y a une souffrance cachée. Une souffrance qu'on peut compenser parfois très largement en s'investissant dans la vie des autres et dans l'avenir de l'humanité. Mais ça reste une souffrance quand même. Je reviens à nous. L'enfant se présente au monde. Il arrive. Il naît. C'est un garçon. Il s'appelle Zacharie. Et tout commence. Si Dieu le permet, Zacharie a la vie devant lui. Il va habiter un monde à la fois plein de promesses et de plus en plus complexe et intrigant. De multiples apprentissages exigeants l'attendent. Tellement de questions vitales sont en suspens pour lui. Et vous, cher Thomas, chère Véronique, vous voulez lui donner racine. Vous savez que vous devez développer des trésors de patience, de fidélité, de grâce, de simplicité, d'ingéniosité pour bien l'accompagner tout au long de sa croissance. Pour lui donner envie de croire, de faire de Jésus son sauveur, son Seigneur. Il lui est déjà précieux, il n'a rien à prouver, il est attendu. Pour lui donner un jour les outils pour devenir un jeune homme indépendant, capable d'opérer ses propres choix. Et là, il ouvrira ses ailes. Des racines et des ailes. C'est ici que l'Église aussi se veut être un lieu de solidarité concrète. Particulier en priant pour Zacharie, pas juste aujourd'hui. En priant pour vous, ses parents, comme nous prions pour les parents de l'Église. Pas seulement prier. L'Église, c'est une communauté où l'on doit pouvoir s'ouvrir, partager, se confier, trouver compassion, trouver compréhension, trouver conseil, trouver réconfort, trouver soutien concret et pratique. Ce matin, nous confions Zacharie à la grâce de Dieu. Et en faisant cette démarche, nous ne promettons pas à bon compte, ni à lui ni à vous, une vie facile. Mais nous reconnaissons humblement notre besoin de Dieu. Et vous en particulier, Thomas et Véronique, vous reconnaissez votre besoin de Dieu pour accompagner Zacharie sa vie durant. Et pour nous tous, pour nous toutes, dans la confiance que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, selon les mots de Romains 8, nous repartons en nous réjouissant de ce moment où nous n'étions, nous aussi, qu'un tout petit corps tissé dans les entrailles de notre mère, à qui nous devons tant. Si nous sommes venus à la vie, si nous sommes là ce matin, c'est que d'autres ont espéré en nous. C'est que d'autres nous ont voulu, nous ont aimés. C'est que d'autres nous ont permis d'accéder à la vie, bon gré, mal gré, et nous ont accompagnés dans la traversée jusqu'ici, jusqu'à la délivrance. Chacun, chacune de nous est donc un fruit de l'espérance, que je désigne volontiers comme la vertu centrale de la foi chrétienne, avec ces deux versets de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 24, qui restent pour moi bouleversants. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère, c'est ne plus l'espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Attendons dans l'espérance et avec persévérance. Notre Dieu n'est pas au bout de ses œuvres en notre faveur et nous nous confions à sa bonté. Amen.
Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je
À la croix, il a versé son sang pour que nous soyons purifiés. Nous lisons dans 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu. Et il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je vous propose, pendant que les éléments passent, un moment de confession, un moment de remise au propre de notre relation vis-à-vis de Dieu, en prenant pour perspective sa sainteté, dans la prière silencieuse, que le vacarme de nos cœurs s'accorde, s'ajuste, avec notre Dieu et Père, trois fois saint. Reynaud, Charline et Rissou. Au centre des plateaux, les verres de couleur sont sans alcool. Et si vous voulez prendre la coupe, Claude et Philippe sont là. avant de venir à la maison, vous avez décidé de partager un peu de vos biens en faveur de la communauté et du travail pour le royaume de Christ. C'est le moment de le faire.
Les annonces du jour, 6 mai, mardi dans 9 jours, 6 plus 9, 15. Le 15 mai, la suite des ateliers bibliques, le troisième volet, la troisième série, le 15 mai, développements ultérieurs de la notion de culte et attente. Ultérieur à quoi ?
Ultérieur au premier siècle,
nous sommes donc concernés. Et attente d'aujourd'hui. Le 19-21 mai, le week-end du caté, c'est Philippe qui sera le leader dans l'histoire. Oui. Il court derrière toi, tu vois. Voilà, c'est un sujet de prière. Vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous adresser à Philippe. Un culte spécial pour la Pentecôte, dimanche 20 mai.
Alors spécial, tous les cultes sont spéciaux, les passages du Seigneur. Mais Pentecôte, du temps de Jésus, c'était aussi une fête des récoltes. Par conséquent, chacun va venir, chacun c'est vous, avec quelque chose qui a le principe de vie en soi, c'est-à-dire soit une courge, soit une fleur, soit des grains, enfin, débrouillez-vous, quelque chose qui, quand on le plante, ça donne des petits. Ça va ? Et on va dire merci au Seigneur. Alors, trouvez un petit peu d'inventivité. Hein. Alors, bien sûr, vous n'allez pas tous m'amener vos bébés pour les placer sur la table, mais il y aura une table ici. Et chacun de vous, tu ne viendras pas, disait la Bible, devant le Seigneur, les mains vides. Alors cette fois-ci, je vous demanderai juste d'avoir un peu d'inventivité. Et puisque c'est une fête des moissons et également de l'Esprit-Saint, on va voir quelle est la relation entre les deux, mais nous aurons une table ici et vous serez tous invités à poser quelque chose. Ça peut être une fleur, pas un gros bouquet, hein. Donc la personne, la gentille personne qui nous gâte avec le bouquet est dispensée de service à Pentecôte. Qui c'est cette personne d'ailleurs ? Il y a plusieurs, hein ? Dispensée. Alors, une chose, soit un grain, soit des céréales, débrouillez-vous, soit des fleurs, soit des légumes, quelque chose qui a le principe de vie et que l'on va donner. Alors, ce que vous donnerez, vous ne le reprendrez pas, vous l'offrirez à quelqu'un d'autre. Débrouillez-vous. C'est votre devoir pour la préparation du culte de Pentecôte du 20 mai. J'aurai la prédication pour expliquer certaines choses. Merci.
Voilà, et samedi 26, le mariage d'Alexia et Sylvain, où nous sommes comme église tous cordialement invités, 13h30, église de Compezières. Et pour l'apéro, vous pouvez donner un coup de main. Les infos auprès de Rebecca Perrin, qui est à la technique aujourd'hui, merci, accompagnée de David également, merci. Ethnopolis, le 1er juin. Ethnopolis, c'est un rallye organisé au sein de la commune de Mérin, pour les classes de 7e P. Ça doit faire aux alentours de 10 ans, je pense. Hein. Voilà. Il y aura un poste ici à l'église évangélique. C'est Claude qui s'en occupera. Ce sera autour de Martin Luther King. C'est juste avec du racisme et de la non-violence. Il cherche quelques personnes, une, deux, pour l'accompagner.
Une dame de préférence.
On a trois hommes, il nous faudrait une dame.
Voilà. Dimanche 3 juin, un culte famille organisé par la Ligue, ici dans nos locaux. Au fait, c'est quoi la Bible ? Et lundi 25 juin, là on se projette un peu dans l'avenir, un colloque avec... Vous voyez que c'est un colloque qui a lieu un lundi. C'est tout à fait nouveau, ça. Colloque avec élection du conseil. Alors, pour l'élection du conseil, il est nécessaire que vous vous inscriviez sur la liste de membres. Il y a à l'extérieur, dans le hall, un carton qui est disposé pour recevoir vos bulletins d'inscription. Il y a également dans le hall, pour ceux qui ne reçoivent pas les courriers de manière électronique, mais de manière physique, les enveloppes avec le bulletin d'inscription que vous pouvez remplir si vous désirez élire, participer à l'élection du conseil. Le retour, vous avez vu, le retour des bulletins d'inscription, c'est le 27 mai, à la fin de ce mois. Et dimanche 26 août, un grand bond dans l'avenir. Voilà, ce sera une fête particulière pour l'installation de notre tout nouveau pasteur. Oui, ouais, il est nouveau longtemps. Philippe Anchaud qui aura à ce moment-là déjà fait un parcours d'une année parmi nous. Voilà, c'est le culte d'installation. Et puis la garderie de la Framboise, je vous rappelle, qui recherche toujours un trésorier et également des membres pour participer à son association. Je vous rappelle qu'après le culte, il y a le repas canadien. Et qu'après le repas canadien, il y a des ateliers qui nous sont proposés par le groupe de jeunes. Voilà, une manière de faire connaissance.
Bon dimanche, bon appétit, vivant de la paix de notre Seigneur.